En 1976, Jacques Pogam réunissait face à face Maurice Clavel et Philippe Sollers pour 5 entretiens, dont voici aujourd'hui le dernier, un dialogue consacré à la question « La religion chrétienne est-elle la vraie religion ?»
Dernier face-à-face donc de cette série. Depuis le départ, nous avons un petit peu dérivé quant au thème. Nous avons abordé successivement mai 68, la crise du marxisme et de toutes les philosophies. Ensuite, le renouveau de la spiritualité, l'angélisme en question. Aujourd'hui, le thème étant la religion chrétienne est-elle la vraie religion? C'est une définition presque pascalienne, ça, Maurice Clavel.
Oui, mais enfin, je ne veux pas entrer tout de suite dans une apologétique, et peut-être vais-je un peu rebrasser le passé, c'est-à-dire les émissions dernières, en rendant une sorte d'hommage à Sollers, en lui disant qu'il a une grandeur que j'ai cru avoir récemment, et que je n'ai plus, c'est qu'il est seul. J'ai été un homme seul, il se trouve que je ne le suis plus, tandis que Sollers, par exemple, vient de refuser, avec courage et rigueur intellectuelle, de rentrer dans ce dilemme, dans ce dilemme schisme des héritiers de mai dont je parlais, c'est-à-dire ce que j'appelais d'un côté le retour de l'être, de l'autre l'aller à la dissolution du néant et de la domination du sexe, n'est-ce pas? Alors, justement, il pourrait peut-être un petit peu mieux s'expliquer là-dessus en introduction, et je vais peut-être l'aider en lui posant une question. Sollers a dit... Libérer le sexe et la parole, ou du moins, attention, a-t-il dit libérer le sexe et la parole, il l'a dit, ou bien a-t-il dit, il l'a dit aussi, libérer un homme soumis au sexe et à la parole, donc le libérer du sexe et de la parole. Je résume, libérer le sexe ou la parole, ou nous libérer du sexe et de la parole. Je crois que les auditeurs n'ont pas suffisamment perçu, moi non plus, votre pensée, j'aimerais que vous la précisiez.
Eh bien, je vais pouvoir dire... Simplement que je crois qu'en effet, la grande tâche aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre la mesure de ce qui est, de tout temps, immémorialement, quelque chose qui pèse sur l'humanité et dont elle n'a pas pris encore suffisamment conscience. Et je dis, c'est le sexe et c'est la langue, c'est le langage. L'humanité croit trop au sexe.
Bien.
Elle ne fait qu'y croire. Et ce qui me gêne souvent, la plupart du temps, tout le temps, dans la pensée religieuse, c'est que j'y discerne une croyance exagérée au sexe.
Ah, voilà. Mais seulement, je vais peut-être...
D'autre part...
Oui, je glisse une parenthèse. Je vais peut-être, personnellement, me démarquer, me désolidariser de ce que vous appelez la pensée religieuse, en contestant l'idée même de religion, mais reprenez la parole.
Et d'autre part, je pense que le moment est venu, par une grande rupture, qui est celle de la modernité que nous essayons d'analyser,
oui,
où l'humanité se rend compte qu'elle parle, mais aussi qu'elle a trop et toujours été trop parlée. Et que par conséquent, étant trop parlée...
Parler eux au passif, c'est ça?
Oui,
c'est pas...
il faut qu'elle prenne la parole. Après tout, puisque nous sommes partis de mai 68, il ne faut pas oublier que ça s'est appelé la prise de parole.
Exactement.
Donc, quand je tenais cette formule sur le sexe et la parole, je voulais dire que, personnellement, tout en revendiquant une conception tragique...
Et c'est ça. J'en prends acte, j'en prends note.
Et c'est ce que j'appelle quelque chose qui pourrait être une nouvelle renaissance. Et le tragique, ça comporte aussi la fête.
Oui. Attention, vous allez trop vite, et là je crois que nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Mm-hmm. Conception tragique, d'accord, j'essaierai peut-être une autre fois de vous embarrasser en vous demandant quels sont les éléments contradictoires, quel est l'arc électrique contradictoire qui fait cette tragédie, mais je suis trop heureux de prendre acte de votre adhésion et de votre reconnaissance du tragique. Évidemment, donc, pour un chrétien, un homme de foi, le tragique de la condition humaine est patent, jusque dans la rédemption.
Voilà. Donc, je voulais simplement dire que ce que je voudrais indiquer, c'est que nous avons à prendre nos distances à l'égard de ce qui nous soumet. C'est-à-dire, d'un côté, cette croyance sexuelle qui fait gélatine et qui fait carcan. Et qui fait carcan d'une façon que...
J'aime encore mieux gélatine, c'est plus évocateur.
Et qui fait carcan d'une façon que les religions institutionnalisées, et c'est pour ça que le dialogue avec vous m'intéresse, n'ont que trop tendance à maintenir. Parce que les religions, c'est aussi une sorte d'alchimie sexuelle déguisée et d'adoration déguisée du sexe, ce qui fait que les religions aient... La névrose et la perversion font parfois très bon ménage.
Je reprendrai presque à la lettre votre phrase. Les religions sont une alchimie du sexe déguisé, car je ne suis pas pour les religions. Donc, à vous encore.
D'autre part, quant à cette affaire de langage dont j'ai dit et dont j'essayais de dire que mai 68 en était l'émergence au niveau d'une possibilité de s'en servir avec une distance, une aisance critique, je pense que...
Et créatrice.
Je pense que c'est cela qui peut... Et sur quoi il faut insister aujourd'hui. Parce que, vous savez, je vous disais tout à l'heure, hors émission, que nous avions, comme ça, critiqué rapidement le rationalisme classique, le rationalisme des Lumières.
Oui,
mais que le XVIIIe siècle, par exemple, ça, c'était aussi Mozart. C'est aussi une dimension du symbolique, pour employer enfin ce mot, qui fait que je pense que c'est au-delà.
À quoi je vous répondrai que Mozart est un au-delà de tout.
Voilà.
Donc il troue son siècle au lieu d'être pris en lui. Nous n'avons pas le temps de parler de Mozart.
Voilà. Mais enfin, je voulais quand même le citer.
Nous allons accumuler les regrets aujourd'hui.
Oui, mais alors, pour ne pas accumuler les retards, et justement pour... j'ai envie de résumer, de récapituler certaines choses avant même d'entrer. Comme ça, on n'aurait pas le temps après. Je dirais ceci. La différence entre Solaire et moi, ce serait peut-être un peu celle de nos deux maîtres, Kant et Hegel. Solaire, sa croyance à la très grande métaphysique, se voulant héritier des philosophies, et admettant, sans preuve, je crois l'avoir souligné, que la philosophie est quelque chose d'indispensable à l'humanité, moi, qu'ancien, critiquant la possibilité de toute métaphysique possible, passée, présente et future, et par conséquent, faisant un très grand déblayage, selon la phrase fameuse, j'ai limité le savoir pour faire place à la foi. Autre point de rapprochement, nous, selon nous, l'histoire peut se faire par rupture et par fracture. Nous avons tous les deux employé l'expression « retour du refoulé ». Pour moi, le grand refoulé qui est revenu en mai 68, c'était Dieu. Pour Solaire, c'était autre chose. Et peut-être aurais-je dû, plus œcuméniquement, parler du grand autre chose qui est revenu alors. Donc nous ne sommes, en mettant des guillemets, ni humanistes, ni progressistes, étant bien entendu que nous croyons que cette époque-ci où nous sommes et à quoi nous devons conspirer, j'aime bien le mot à cause de l'idée de souffle qu'il a, c'est justement une libération humaine, une libération d'une dimension humaine que vous appelez le tragique, qu'on peut appeler chez moi le divin, qui a été occulté, enfoui et qui est en train de se venger avant de nous libérer, c'est-à-dire de nous rendre à nous-mêmes, si bien que nous reviendrions à l'humanisme, mais en ayant balayé toutes ces petitesses étroites, sectaires et finalement totalitaires. D'autre part, pourquoi, là j'en viens peut-être au sujet de l'émission, pourquoi est-ce, d'un mot, excusez-moi de parler de moi, pourquoi est-ce que je m'entends si bien avec les athées? C'est-à-dire les athées à la pensée rigoureuse et si mal avec les chrétiens vaguement idéologues. Eh bien, excusez-moi de me citer encore, c'est que pour les vrais grands athées, Dieu est Dieu. Les athées me disent, si j'avais la foi, j'aurais la vôtre. Et je les comprends très bien. La foi est un vécu. La foi est un vécu dont ils respectent chez moi la présence et dont je respecte chez eux l'absence. D'autre part, la foi, c'est là que je reprends Kant, la foi est radicalement différente de la raison, à tels enseignes que j'ai pu dire que la raison était, du point de vue ontologique, la raison était chez l'homme, ne pouvait pas trouver Dieu, ne pouvait pas chercher Dieu, parce qu'elle était, dans le péché originel même, une aversion et une fuite même de Dieu. Et par conséquent, les chrétiens qui essaient de trouver Dieu dans la raison, ou de faire bon ménage entre Dieu et la raison, n'est-ce pas, sont en quelque sorte des ânes chargés de reliques, et je crois que Solers me l'accordera.
C'est pour ça d'ailleurs que les rationalistes et les cléricaux, ces temps-ci, peuvent s'entendre si bien.
C'est pour ça que se passe cette vaste combine cléricalo-gauchardes, où il paraît que je trouble la fête, mais je crois que vous serez d'accord sur ce point avec le trouble-fête que je suis.
Mais c'est pas une fête, c'est quelque chose d'assez sinistre. Donc vous troublez quelque chose de sinistre.
Oui, justement pour une fête possible et commune. Donc, nous serions aussi donc d'accord finalement sur cette espèce de retour d'une dimension humaine dont je vais montrer à l'instant qu'elle n'est pas spécifiquement religieuse, qu'il m'arrive très souvent d'étendre par exemple dans l'Antiquité à un homme comme Socrate qui a apporté cette dimension trouant sa cité, trouant sa culture, vers je ne sais quelle transcendance, ou plutôt auto-transcendance de l'homme, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Socrate est le premier exemple de libération possible et de formidable répression culturelle. Alors, je crois que entre Dieu et Socrate, nous pouvons nous mettre d'accord quelque part sur ce qui revient à nous, sur ce qui revient en nous pour nous rendre tous à nous-mêmes. Et maintenant, coupez-moi quand vous voudrez, Solaire, il me reste quand même à montrer que je ne suis pas religieux. Si vous voulez, il y a ceci. Il y a une distinction qui a fait fureur pendant quelque temps entre la religion chrétienne et les autres religions, en disant la religion chrétienne est une foi, tandis que les religions ne sont que des religions. Eh bien, cette distinction, je la reprends à mon compte, et j'ai essayé de l'aggraver encore. Je résume ici ma pensée en 30 secondes, si possible, sous forme d'une fable, presque d'un mythe. Je tiens que le péché originel, car enfin il faut bien y croire si on est chrétien. Les chrétiens sans péché me font bien rire. Le péché originel étant cette aversion fondamentale de Dieu. L'homme du péché et l'homme sans Dieu, l'homme si vous voulez seul au monde. Et je dis qu'à ce moment-là, de par cette angoisse et cette détresse formidable de l'homme, se crée entre lui et ce Dieu qu'il a refoulé une sorte de compromis. De compromis névrotique, de compromis stabilisant et rassurant, que j'appelle justement la religion ou les religions. Alors là, vous comprenez, c'est là où j'accorderai entièrement à Freud que, un, que la religion est une névrose, deux, que les religions sont des opiums du peuple. Enfin, sont à demi, les religions naturelles ou traditionnelles, comme on voudra, sont à demi vraies, je viens de dire. Pourquoi ? Parce que Dieu est réinfiltré, réadmis, mais de façon rassurante, et pourtant opium du peuple ou névrotique, parce que ce n'est pas Dieu en personne qui revient. Car quand Dieu en personne revient par-delà le péché, qui est une immense croûte épaisseur et carapace contre lui, eh bien, il nous brise, il nous casse, il nous tue. Cela fait un sacré fracas. Et dans l'histoire de l'humanité, cela s'appelle, vous me l'accorderez peut-être, Abraham. Abraham est le seul qui se soit ouvert comme une grenade, peut-être au deux sens du mot grenade, l'arme et le fruit, qui se soit ouvert à Dieu lui-même. Et c'est de là, selon moi, que vient l'histoire juive et chrétienne. Par conséquent, selon moi, l'histoire juive et chrétienne a été une révélation vécue, éprouvée, une sorte, et agonistique à la fois, conflictuelle, une révélation de l'absolu. Et c'est dans cette histoire occultée actuellement par l'Occident, occultée par les chrétiens idéologues eux-mêmes, c'est dans cette histoire-là que nous vivons encore. Et cette histoire-là s'appelle l'histoire de la révélation. Mais révélation, je dirais presque Solers, au sens sexuel du mot, mais du sexuel porté, sublimé sur le plan de la transcendance, Dieu se révèle et Dieu me révèle, au sens, parce qu'on dit qu'une femme est révélée. Dieu me dit, dans le combat, en acte toujours, et dans l'histoire même, dans notre histoire, Dieu me dit qui il est, Dieu me dit qui je suis. Et vous comprenez mieux, peut-être, je vais arrêter là, mon attitude antiphilosophique. Si Dieu a pris la peine, le tourment, tous ces tracas qu'on lui voit dans la Bible et qu'on lui voit encore dans notre histoire sainte où nous sommes toujours, de se dire à nous, de se révéler à nous et de nous rendre à nous-mêmes, fût-ce en nous violant, c'est que nous ne pouvions pas avoir par nous-mêmes les lumières pour le connaître et pour nous connaître. Par conséquent, la révélation chrétienne, je vais très loin là, dispense, et c'est l'abîme entre nous, mais comme je dis souvent aux grands athées, nous ne sommes séparés que par l'abîme. Nous sommes honnêtes et rigoureux l'un et l'autre. La révélation chrétienne dispense de philosophie, et voilà pourquoi, dans l'histoire de l'Occident, les vrais penseurs chrétiens, qui se comptent sur les doigts d'une main, ont toujours été des anti-philosophes, des contestataires de la philosophie. Pascal contre Descartes et le rationalisme ambiant, Kierkegaard contre Hegel et le nouveau pan-rationalisme ambiant, ou encore des gens contre Kant, qui détruisent par une science nouvelle appelée critique de la raison, qui détruisent le pouvoir de raison vers une métaphysique possible. Voilà ma position. La révélation nous dispense donc de philosophie. Et je suis un homme révélé qui se trouvait par sa formation critique chien de garde vis-à-vis des illusions philosophiques et métaphysiques de la raison humaine, où il me semble, ce sera ma dernière flèche, où il me semble que vous plongez encore avec une grandeur intellectuelle que je respecte et que j'admire.
Je vous réponds tout de suite. Vous avez parlé de la foi. Et je parlerai, moi, de la connaissance. La connaissance est possible, et la connaissance du fait religieux, dans toute son étendue, est, à mon avis, possible. Pour distinguer, justement, entre ce qui aura fait religion, comme institutionnalisation, et ce qui peut faire vérité au niveau de l'émergence d'un discours nouveau dans l'histoire et de l'émergence de quelque chose de tout à fait non codé à l'avance dans l'histoire de l'individu et du sujet lui-même qui par moment prend la dimension d'un fait historique. Par conséquent, je crois que par certains côtés nous sommes d'accord sur le fait que, en effet, c'est Freud qui est venu, d'une certaine façon, montrer.
Il était bon qu'il vînt.
Il est venu montrer en quoi la religion, comme institution et comme ensemble de rituels obsessionnels, était une chose qui masquait complètement le fonctionnement de la pensée vers quelque chose qui était inconscient et définitivement inconscient dans le sujet humain. Vous avez parlé...
Je vous l'accorde évidemment pour tout ce qui concerne les religions dont je viens de distinguer radicalement et absolument la foi chrétienne dans l'absolu et l'histoire à la fois.
Absolument.
Foi chrétienne est une contre-religion en quelque sorte.
Alors, vous avez la foi chrétienne. Y a-t-il une possibilité pour penser malgré tout cette foi, ou cette foi est-elle au-delà de la pensée? Je suis de votre avis quand vous dites...
Elle est au-delà de la raison, vous introduisez le mot pensée qui peut nous rapprocher, effectivement.
Oui, pensée au sens de Vasis Dengen. Hein, oui. Qu'est-ce que c'est que penser?
Voilà.
Bien. Et j'ai été touché que vous parliez de la Bible. Parce que je suis persuadé que ce livre, après tout c'est un livre, qui est partout. Qui est partout, surtout dans toutes les tables de nuit, par exemple, des États-Unis.
Oui.
Il y a le vase de chambre, il y a le vase de nuit et la Bible. Eh bien, je suis persuadé que ce livre résiste, quoi qu'on fasse, à ce qu'on en fait.
Oui.
Et alors, je suis persuadé, et c'est là où me paraît s'indiquer une question très profonde, dont nous sommes peut-être au commencement de la poser.
S'indiquer avec cette apostrophe, évidemment.
C'est que le christianisme, est-ce que le christianisme aura été quelque chose qui n'aura pas refoulé la Bible? Après tout, nous sommes dans un pays catholique. Nous sommes dans un pays catholique, et nous savons que... Et nous savons que ces catholiques ne savent rien de la Bible.
Ce sont les derniers à savoir quelque chose.
Voilà. Ne savent rien, en tout cas, de ce sur quoi ils se construisent et de quoi ils se supportent, de quoi ils font, en principe, foi.
De ce qui les a fait.
Alors, je vous dirais que, d'une certaine façon, de même que nous parlions de Freud qui avait écrit « Malaise dans la civilisation », il a écrit autre chose, qui s'appelle « L'avenir d'une illusion ».
Oui, ça c'est... c'est moins bon, hein. C'est pas Calotin qui parle en moi.
Mais il a écrit encore autre chose qui s'appelle Moïse et le monothéisme.
Moins bon aussi.
Mais ça, c'est une question à discuter. N'empêche que, dans cette question posée par Freud, moi je vois, aujourd'hui, au niveau de la pensée,
la possibilité d'analyser en quoi on a tort de dire la tradition judéo-chrétienne.
Je n'ai jamais dit ça, j'ai toujours dit l'histoire absolue qui a fait le judéo-christianisme et qui dépasse les pauvres judéo-chrétiens que nous sommes avec notre Bible sur nos tables de nuit ou notre Bible complètement refoulée par un évangélisme humaniste.
Voilà. Mais je pense que là, de même qu'il y a eu un refoulement de la vérité de la Bible par le christianisme, de même, il y aura peut-être dans l'histoire qui est en train de nous tomber dessus, un refoulement de quelque chose de cette Bible, par exemple, par la religion islamique. Et peut-être que nous sommes à la veille de vivre ce grand drame renouvelé de quelque chose qui est parmi nous et qui est
Solaire,
tout simplement Solaire, l'impossibilité...
Solaire, j'admets ce que vous dites, mais n'oubliez pas que je suis le pauvre petit journaliste transcendantal qui intuitionne l'instant dans son pays et dans sa culture.
Oui, mais vous avez écrit quelque chose
à suivre. Et qui ne peut vous suivre sur ces grands développements historico-cosmiques lorsqu'ils deviennent futuristes.
Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que Maurice révèle encore quelque chose là-dessus.
Mais non, justement, je voudrais peut-être essayer de rassembler ça.
Je voulais simplement rappeler la Bible.
On a vu tout ce que je lui abandonne, et ce n'est pas par concession lâcheté, compromis radical socialiste, au contraire. Je dirais ceci, la foi chrétienne est une anti-religion, et je dirais, en admettant même que Moïse ne résiste pas à Freud, je crois qu'il lui résiste fort bien, en tout cas, il est un homme et une expérience singulière, inouïe à la lettre, et absolu, qui résiste à Freud, c'est Abraham, c'est-à-dire l'homme qui vivait justement dans un milieu absolument religieux et où tout était religiosisé, pardonnez-moi, sa famille, sa tribu, sa maison, et auquel un appel a été fait, tu quitteras, et tu iras où je te dirai. C'est de cet arrachement absolu, absolument sanglant, déchirant, voir le sacrifice d'Abraham, d'Isaac, et plus tard le sacrifice du Christ, je n'ai pas le temps de remplir ces 2000 ans en 2 minutes, n'est-ce pas? C'est de cet arrachement absolu que nous sommes venus, que nous sommes faits, et dont j'ai essayé de le montrer dans mes livres, dont est tirée même notre raison occidentale, jusque dans la mesure où elle se retourne contre cette origine même, et la refoule, et l'occulte, et la nie, ce qui m'a permis de conclure dans ce que je crois, en disant, l'homme absolu a été inauguré, au sens fort du mot, instauré par Abraham, en Abraham, il a été accompli, réalisé par le Christ, sacrifice et résurrection du Christ, propagé et communiqué en puissance et en acte à toute l'humanité par l'irradiation de cette mort et de cette résurrection du Christ qui a fait le grand cri de Saint Paul, il n'y a plus désormais ni juif, ni grec, ni romain, ni chrétien, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, il n'y a plus que des frères du Christ auxquels il a communiqué son irradiation, de telle sorte que je dis à l'athée humaniste qui est en un sens là, notre ennemi commun, tu brandis contre Dieu l'homme, et je te réponds, qui t'a fait homme?
Belle phrase de conclusion, il nous reste maintenant 2 minutes, je voudrais vous poser à chacun une question. Philippe Solers, au point de départ, votre inquiétude était que Maurice Clavel soit manipulé très directement par un certain nombre de personnes dans un sens, un intérêt philosophique, un intérêt politique. Après une semaine de débat et de vie avec lui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce danger existe véritablement?
Tant que Clavel parlera, écrira ce qu'il pense et ce qui lui est visiblement, quand on l'écoute, imposé comme pensée, aucun risque de ce genre ne peut, à mon avis, se produire. Ça n'empêche pas que c'est un risque qui, de toute façon, le guette, comme tout homme qui s'en remet à une aspiration qu'il essaye de tenir et dont il essaye de tenir l'enjeu et le pari. Donc il est dans un risque. Il est dans un risque personnel tout à fait audible au niveau de ce qu'il dit et il est dans un risque par rapport à ceux qui ne manqueront pas d'essayer d'affadir et de stéréotyper ce qu'il dit.
Maurice Clavel, une question des auditeurs.
La même, je suppose.
Non, pas la même question, non.
Je crois que les auditeurs... Pour moi, pardonnez-moi, le risque de la liberté. Et le risque de la liberté qui, dans la mesure, non pas je suis un homme libre en tous les hommes libres, mais où, comme je le dis humblement, j'ai été un homme libéré et délivré. Je tenais à le marquer pour finir.
Mais je n'estime pas
que la question que je vous poserai, c'est celle d'un auditeur qui nous a téléphoné hier. En 5 jours, c'était 4 jours et ce sera le 5e aujourd'hui, vous n'avez pas parlé une seule fois de Soyenitsyn. C'est la grosse surprise.
Mais pourquoi? On connaît mon sentiment sur Solzhenitsyn. J'ai trouvé les propos de Soler admirables sur Solzhenitsyn. Je n'ai rien à y ajouter. C'est l'événement de la seconde moitié du XXe siècle. Il est très significatif, comme dit Soler, que ce soit un écrivain qui fasse cet événement mondial, cet événement cosmique. Que voulez-vous que je dise de plus? Je n'ai pas, justement, au nom même de cette liberté que je la dois vous saigner ou non, je n'ai pas à être hanté par Solzhenitsyn.
C'est-à-dire que je ne suis pas
un maître, certes, mais je ne suis pas un disciple.
Ça veut dire aussi, Maurice Clavel, que vous ne l'abandonnez pas non plus en cours de route, comme certains vous en ont soupçonné.
Je n'abandonne pas Solzhenitsyn. Un dernier mot sur Solers. Je le croyais de l'autre côté. C'est beaucoup moins simple que cela.
C'était mémorable. Nous avons entendu cette semaine le face-à-face Maurice Clavel-Philippe Solers, animé par Jacques Pogam, et diffusé la première fois sur France Culture en juillet 1976.